Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Et bonjour Bourg-en-Bresse, bienvenue dans la chronique des bibliothécaires. Ce mois-ci, les chroniques seront un peu tristes, voilà, j'espère que vous êtes de bonne humeur, ça va pas durer. Alors aujourd'hui on accueille une petite nouvelle, Valentine, qui nous parlera d'un jeu de PS5. Mais avant cela, il y aura Sophie avec un roman pour adultes bien plombant, Kevin avec un manga pas optimiste, et puis moi-même avec un bel album, donc je suis Aurélie, pardon, avec un bel album, mais un peu triste aussi. Alors on commence, aujourd'hui on parle de douceur, de douleur aussi, mais avec tendresse. Je vous présente l'album Grand-mère d'Éléonore Douspice, paru chez Albin Michel Jeunesse. À l'aide de cubes représentant des bribes de souvenirs, l'autrice nous raconte les difficultés d'une dame âgée qui perd la mémoire. Ses souvenirs se défont, s'envolent. Il ne reste plus que des cubes épars, sans lien entre eux. Parfois, à la faveur d'une question, ses petits-enfants arrivent à attraper un souvenir encore précis, et ils s'empressent alors de mettre le cube à l'abri pour conserver l'histoire de leur mamie. Ce sont des mots qui vont redonner vie aux souvenirs de la vieille dame. Des mots comme « nuage », « essence », « odeur », « eucalyptus », « manioc », « lac ». Elle se remémore sa jeunesse dans un pays africain, comme le laissent deviner les illustrations, et ses actes de rébellion. Un souvenir est raconté en particulier. À l'époque, la grand-mère encore jeune femme vivait près d'un lac, avec son mari pêcheur. Chaque jour, elle observait le lac, et elle restait fascinée devant le spectacle de la brume à la surface de l'eau. On aurait alors dit que les barques et les poissons volaient parmi les nuages. Elle rêvait de voguer parmi eux. Mais son mari le lui interdisait. Néanmoins, un beau matin, elle décida de lui désobéir et de prendre le bateau. Enfin, elle réalisa son rêve et elle put se suspendre dans les airs. Et ce fut si beau que le souvenir lui en reste encore, malgré sa mémoire qui part en lambeaux. Mais quand elle le perdra à son tour, ce beau souvenir ne sera pas disparu. Il restera dans la mémoire de ses petits-enfants, comme un trésor bien gardé. Les illustrations sont délicates et sublimées par quelques pop-up.
C'est quoi ?
Tu ne sais pas ce que c'est ?
Mmh.
Eh bien, quand tu ouvres le livre, ça te pop à la figure. C'est en fait une illustration en quatre dimensions, qui généralement sort du livre. Ici, les pop-up et le travail de découpe mettent en exergue les souvenirs de la grand-mère, qui ont l'air de vouloir s'échapper des pages en même temps que de sa mémoire. À souligner également, car c'est encore assez rare dans la littérature jeunesse, le fait que les personnages soient de couleur et que ce ne soit pas le propos du livre. Trop souvent, les personnages noirs sont utilisés pour traiter du racisme. Ici, ils sont noirs, comme ils auraient pu être blancs, et c'est bien ainsi. Alors, vous avez envie de le découvrir ?
Oui.
Ce livre, à cause de sa fragilité, n'est malheureusement pas empruntable. Mais vous pouvez le feuilleter, le lire ou le contempler à la médiathèque Césaire, dans le bac des albums animés. Et maintenant, je laisse la place à Kevin.
Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin et je suis là pour vous parler d'un manga que j'ai beaucoup aimé et que j'espère vous donner envie de découvrir. Il s'agit de L'Oxalis et l'Or de Eiichi Kitano aux éditions Glénat. L'Oxalis et l'Or nous projette en 1849 en Irlande. Les férus d'histoire sauront que ce n'était pas super jojo là-bas à cette époque, puisque nous sommes en plein pendant la grande famine irlandaise, une catastrophe politique et agricole qui a anéanti presque intégralement les récoltes de pommes de terre. Ces patates qui constituaient la nourriture de base de la population paysanne. On estime à 1 million le nombre de morts de faim et de maladies, et 2 millions le nombre de réfugiés. Et c'est justement le destin de deux adolescents irlandais qui décident de fuir que nous suivons ici. Amelia, maîtresse d'une petite ferme dont elle a été expulsée faute d'avoir pu payer le loyer. Et Connor, un de ses serviteurs qui lui est resté fidèle et qui continue de prendre soin d'elle. L'histoire débute alors que Amelia et Connor, maigres comme des clous, ne portant que des haillons, fouillent des corps sans vie afin de trouver de quoi se nourrir. Mais surtout, assez d'argent afin de se payer le bateau jusqu'aux États-Unis. Car en effet, depuis peu, une rumeur enfle. Il y aurait des pépites d'or en Californie. C'est suffisant pour attirer les plus courageux vers cette destination lointaine. L'auteur a été très rigoureux dans ses recherches historiques. Et avec son dessin réaliste, il nous fait découvrir l'architecture, les plats typiques, les us et coutumes d'Irlande et d'Amérique. Car oui, je spoil un peu, mais notre duo arrivera bien à traverser l'océan. Et c'est leur voyage à travers les États-Unis qui sera la véritable péripétie de ce titre. Sur le chemin, ils rencontreront des personnages fictifs et historiques, comme Bill the Butcher, un chef de gang extrêmement brutal. Un manga assez dur donc, à première vue, qui traite de la pauvreté, du désespoir, des guerres de gang, du racisme, mais l'auteur sait très bien doser son récit, et la personnalité enflammée d'Amelia, optimiste, dynamique, pleine d'entrain, permet de ne pas être dans le pathos constant. C'est même drôle par moments et touchant. Et bien évidemment, il y a de l'action aussi. Enfin bref, L'Oxalis et l'Or, c'est vraiment bien. Et si vous avez aimé des mangas comme Golden Kamuy ou encore Vinland Saga, eh bien laissez-vous tenter par L'Oxalis et l'Or. Déjà 4 tomes sont disponibles à la médiathèque Camus, la série est toujours en cours et on espère qu'elle durera encore longtemps. Sur ce, je laisse la parole à Sophie qui va vous parler d'un roman adulte.
Merci Kevin. Karine Thuil, peut-être que ce nom vous est familier. Cette autrice recevait en 2019 le prix Goncourt des lycéens et le prix interallié pour le roman Les choses humaines, qui nous plongeait dans une terrible affaire de viol. Et c'est de nouveau un sujet brûlant que nous propose l'autrice pour la rentrée littéraire avec La décision, éditée chez Gallimard. En plein cœur de l'actualité, ce roman de 300 pages est construit autour d'un choix que doit prendre une juge d'instruction antiterroriste. Faut-il libérer ou non un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie et prétendument repenti? Cette décision trouve une réponse d'emblée avec la terrible première phrase du roman qu'un autre juge lui pose.
Est-ce que vous voulez vraiment voir les images de l'attentat?
Nous comprenons ainsi quel a été son choix et ses conséquences. Et c'est justement la richesse de ce roman. L'intrigue, en étant avortée, nous permet d'aborder la lecture sous un angle différent, puisqu'elle s'intéresse aux rouages qui menèrent à cette décision. Le travail, très documenté de l'autrice, nous permet d'observer le fonctionnement interne du système judiciaire français, et plus particulièrement du pôle antiterroriste. L'action se passe en 2016, un an après les attentats. Nous croisons des juges, des avocats, des greffiers, des agents de renseignement, des enquêteurs de la DGSI ou des négociateurs qui vont intervenir à tour de rôle auprès de la narratrice Alma Ravel. Elle, la cinquantaine, est également face à une révolution personnelle puisque son mariage bat de l'aile et qu'elle entretient une liaison compromettante avec l'avocat qui représente le mis en examen. Ce roman, très argumenté, laisse une grande place au doute et à l'humain, et nous voyons clairement les limites de l'interrogatoire et la complexité de juger des intentions d'un individu, comme vous allez le voir dans la lecture de cet extrait, chapitre 3. Je me nomme Alma Revel. Je suis née le 7 février 1967 à Paris, j'ai 49 ans. Je suis la fille de Robert Revel et Marianne Darrois. Je suis de nationalité française, en instance de divorce, mère de 3 enfants. Je suis juge d'instruction antiterroriste. Il y a 3 mois, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques pour moi, ma famille, pour mon pays. On se trompe sur les gens. D'eux, on ne sait rien, ou si peu. Mentent-ils? Sont-ils sincères? Mon métier m'a appris que l'homme n'est pas un bloc monolithique, mais un être mouvant, opaque et d'une extrême ambiguïté, qui peut à tout moment vous surprendre par sa monstruosité comme par son humanité. Pourquoi saccage-t-on sa vie ou celle d'un autre avec un acharnement arbitraire? Je ne sais pas, je ne détiens pas la vérité, je la cherche inlassablement. Mon seul but, c'est la manifestation de cette vérité. Je suis comme une journaliste, une historienne, un écrivain. Je fais un travail de reconstitution et de restitution. Je tente de comprendre le magnétisme morbide de la violence, les cavités les plus opaques de la conscience, celles que l'on n'explore pas sans s'abîmer soi-même. Tout ce que je retiens de ces années, c'est à quel point les hommes sont complexes. Ils sont imprévisibles, insaisissables, ils agissent comme possédés. C'est souvent une affaire de place sociale, ils se sentent blessés, humiliés, au mauvais endroit. Ils se mettent à haïr et ils tuent. Mais ils tuent aussi comme ça, par pulsion, et c'est le pire pour nous de ne pas pouvoir expliquer le passage à l'acte. On sonde les esprits, la sincérité des propos, on cherche les intentions, on a besoin de rationaliser. Et dans quel but? Car, à la fin, on ne trouve rien d'autre que le vide et la fragilité humaine. Voilà, c'est une lecture intense que je vous recommande vivement avec ce roman de Karine Thuil, La Décision. Contemporain, complexe et précis, il aborde des thématiques essentielles pour éclairer l'actualité judiciaire antiterroriste de notre époque. Et maintenant, je laisse la parole à Valentine.
Merci Sophie. Donc pour cette première à la radio, je vais vous parler d'un jeu qui a déjà été évoqué dans les autres chroniques. Et c'est pour vous donner envie d'y jouer et d'en regarder des extraits, bien sûr. Donc le jeu que je vais vous présenter est Kenna Bridge of Spirit. Il a été développé en partenariat avec des concepteurs de films d'animation. Et là-dessus, on peut donc saluer son esthétisme visuel dans la représentation du personnage principal et aussi dans la fluidité des mouvements lors du jeu. Ce qui est à souligner également, c'est l'expression des émotions qui rend le personnage plus attachant, plus humain, auquel on s'identifie un peu plus. C'est un jeu avant tout immersif dans un monde où il faut sauver le plus d'esprits possible. Et le personnage que nous jouons est Kenna, donc une petite fille qui est le symbole de la pureté bienveillante, et elle a envie de rendre son monde meilleur en donnant le maximum. Elle est accompagnée de petits esprits charismatiques et mignons dans sa quête entre exploration et combat. Et ces petits esprits, il vous est possible de les personnaliser avec des accessoires tels que des chapeaux de cow-boy, des chapeaux de paille, des chapeaux en forme de fleurs et plein d'autres accessoires à découvrir. C'est un atout en plus du jeu. Le choix du niveau de jeu est un plus car il permet d'adapter le jeu à tous les joueurs et à tous les challenges. Si vous voulez vous mettre le défi de le faire au niveau le plus difficile, rien n'est impossible. Entrer dans le jeu, c'est donc partir à la rencontre d'esprits corrompus au travers de combats dynamiques, et vous aurez l'impression d'y être, c'est promis. Entre forêts enchantées, rivières au graphisme époustouflant et rencontres avec des êtres mystérieux, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Ressentez toutes les actions grâce à la manette de PS5 et sa nouvelle technologie pour vivre le jeu à 300%. Laissez-vous avant tout embarquer dans une ambiance sonore et féerique, accompagnant la contemplation et l'action. Les deux extraits que vous allez entendre sont représentatifs de l'immersion visuelle et sonore que ce jeu vous donne à vivre. À retrouver à la médiathèque Camus, à jouer sur place sur la PS5 dans l'espace Gamebox durant les heures d'ouverture.
Oui.
À bientôt pour de nouvelles chroniques des bibliothécaires et merci de votre écoute.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
À bientôt.
Tu t'ennuies?
Tu sais pas quoi faire?
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Wouhou!